On va revenir maintenant sur la canicule et retrouver au pied de la Tour Eiffel Élise Philips en direct, parce que la Tour Eiffel a décidé d'aménager ses horaires pour protéger à la fois le personnel de la Tour Eiffel, les visiteurs, et donc la Tour Eiffel ferme plus tôt.
Exactement, elle est fermée même depuis plus de deux heures maintenant. Les visiteurs n'ont plus accès à la Tour Eiffel. C'est la société d'exploitation qui gère la Dame de Fer qui a pris cette décision exceptionnelle en raison d'une canicule exceptionnelle. 37 degrés en ce moment avec un ressenti de près de 40 en plein soleil. Et donc, depuis tout à l'heure, eh bien cette ligne d'attente, cette ligne qui accueille normalement les visiteurs, qui est normalement complètement remplie, est totalement vide parce que la chaleur est trop importante. Il y a des risques pour les visiteurs, pour les agents qui travaillent pour la Tour Eiffel, des risques de malaise, des risques de déshydratation. Et puis le métal de la Dame de Fer chauffe énormément en plein soleil et donc ça augmente aussi la température ressentie tout là-haut. La Tour Eiffel, c'est 6,5 millions de visiteurs par an, donc il y en avait beaucoup qui souhaitaient monter au deuxième étage aujourd'hui. On en a rencontré tout à l'heure avec Louis Guenpin, des visiteurs principalement étrangers qui nous ont dit être surpris par cette canicule. On a par exemple rencontré un monsieur qui venait du Tchad, une dame qui venait du Texas, deux endroits très chauds, et même eux nous ont dit avoir été surpris par la chaleur parisienne et comprendre cette décision. Cette dame, elle nous a dit qu'elle n'aurait probablement pas supporté une visite tout en haut de la Tour Eiffel parce qu'encore une fois, il fait très chaud. Normalement, la Tour Eiffel devrait être encore fermée demain. C'est une possibilité parce que cette canicule, elle va encore durer plusieurs jours ici à Paris.
Élise Philips au pied de la Tour Eiffel avec Louis Guenpin pour BFM TV, justement. Regardons l'amplitude des départements qui sont placés en vigilance rouge et orange et puis les températures du jour, Anthony.
C'est du jamais vu pour les départements placés en vigilance. Il n'y en a que 7 qui ne sont qu'en vigilance jaune. 58 départements en vigilance rouge. Les nouveaux, ce sont effectivement, vous le voyez, les départements du Nord. Bon, très concrètement, on a relevé des températures, Alain, ahurissantes. Aujourd'hui, quand je vous dis ahurissantes, c'est par exemple 44 degrés à l'ombre, évidemment, au Cap Ferret. On n'avait jamais vu ça depuis 100 ans. On a aussi, par exemple, 43,5 degrés à Cazaux, c'est toujours en Gironde. 42 à La Roche-sur-Yon. Des villes un petit peu plus connues peut-être, 43 degrés à Nantes, 42 degrés à Poitiers, enfin bref, les 40 degrés ont largement été atteints, dépassés, pulvérisés même sur la façade ouest du pays. Nous avons enregistré aujourd'hui la journée la plus chaude de toute notre histoire météorologique.
Et dans ces cas-là, on cherche des endroits frais, alors des endroits frais aérés, c'est le droit à la fraîcheur, aéré ou climatisé. Ça, c'est le débat du moment, débat politique. Le Rassemblement national propose un grand plan climatisation et rénovation. Du côté de la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, on estime que la climatisation, c'est pas la priorité. Loin de là même, il s'en méfie. Jean-Luc Mélenchon, écoutez-le.
Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. On sait faire des bâtiments qui résistent à la chaleur, d'accord ? Il y a des techniques et parmi elles des choses les plus, incroyables. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses à pas faire. Laisser les choses en l'état et deuxièmement, aggraver le mal en croyant soulager. Alors, allez mettre de la clim partout, vous allez voir le résultat. Moi, je mets pas mon gosse ou ma petite fille ou mon arrière-petite fille là où c'est de la clim du matin au soir. Hein. Ça vous détruit les sinus. Prenez le TGV pour aller à Marseille, vous tapez 3 heures pour y aller, 3 heures pour revenir. Vous revenez avec un nez comme ça.
Louis Boyard, alors la clim c'est non pour LFI, bonsoir.
Non, bah alors bonsoir, c'est absolument pas ce qui a été dit. Nous ce qu'on explique...
Si quand même.
Ah non.
Bah, là, il dit ça aggrave le problème, donc oui. Si ça aggrave le problème, on le fait pas.
On va remettre les choses dans l'ordre. Il y a un avantage avec la France Insoumise, c'est que contrairement aux autres formations politiques, on a un programme. Et donc du coup les gens peuvent aller voir le programme et voir ce que propose la France Insoumise. Dans tous les lieux sensibles, par exemple les EHPAD, par exemple les écoles, par exemple les hôpitaux, là oui, il faut de la climatisation. Par contre, si jamais vous voulez adapter la société aux effets du dérèglement climatique, et c'est peut-être le point de départ du débat, le dérèglement climatique a commencé. Certains disent c'est l'été le plus chaud de notre vie, c'est l'été le moins chaud comparé aux années qui vont venir. Ça va être la norme. Alors c'est toute la société qu'il faut embarquer pour faire la planification écologique.
Mais Jean-Luc Mélenchon, il dit moi, je mets pas mes petits-fils là où il y a la clim. Il les met pas à l'école non plus. Il les met pas dans le train.
Déjà, premièrement, toutes les écoles n'ont pas la clim. Mais deuxièmement,
il vaut mieux comme ça. Il continuera d'étudier. Il sera pas à la maison.
Vous avez d'autres méthodes.
Vous êtes pour qu'on climatise les écoles?
Ah mais évidemment, c'est dans le programme. En fait,
sur Jean-Luc Mélenchon, mettre ses petits enfants à l'école.
Ses petits enfants c'est à l'école. Vous prenez le sujet dans la globalité. Vous avez des endroits dans lesquels il faut mettre la climatisation, écoles, hôpitaux, EHPAD. Mais par contre, le gros sujet, c'est la question de la rénovation thermique des bâtiments. Où là, vous n'avez pas que des méthodes de climatisation. Parce que moi, elle me fait beaucoup rire, Marine Le Pen, avec son projet de climatisation partout.
100% mais est-ce que... rénov, ça s'appelle, voilà. Avec des prémassifs très taux zéro pour isolation, voilà. Climatisation, et ça, globalement 20 milliards.
Et eux, en gros, ils disent il faut mettre la clim partout. Alors dans ce cas, c'est Marine Le Pen qui va payer les factures de climatisation pour les Français ? Non, parce que derrière, il faut qu'il y ait des gens qui payent. Parce que elle, son objectif, c'est que l'État paye rien. Or, si jamais vous voulez adapter notre pays au dérèglement climatique, il faut faire la rénovation thermique des bâtiments. Et sur ça, Macron est un amateur.
L'un n'empêche pas.
Et bah alors sur la rénovation thermique des bâtiments, vous observerez que Marine Le Pen systématiquement, elle s'y oppose. Attendez, j'irai même plus loin. Rien que la semaine dernière, Marine Le Pen, elle a voté pour qu'on réexploite à nouveau du pétrole et du gaz sur le territoire national. Donc d'un côté, elle veut aggraver les effets du dérèglement climatique, de l'autre côté, elle n'a pas de projet pour la planification écologique et à la fin, c'est les Français qui payent.
Mais Arthur Delassus, justement, vous êtes ingénieur spécialiste énergie climat, vous avez écrit Les mille et un mythes de la transition énergétique à paraître aux éditions de l'Aube. La climatisation, c'est l'ennemi ou pas alors ?
Bon, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait partie de la boîte à outils. Vous avez évoqué quelques outils dans cette boîte à outils, la climatisation, l'isolation, etc. Et il se trouve qu'il y a des études très bien faites qui ont été regardées, qui ont été faites à Paris. Et à Paris, à terme, on aura 15 heures sur 24 de stress thermique si on ne fait rien. Si jamais on
Qu'est-ce que c'est le stress thermique ?
C'est quand on vit au-dessus de 24-25 degrés. Et après, évidemment, ça peut monter. Il y a différents niveaux de stress thermique. Si jamais vous isolez tous les bâtiments de la région francilienne à un niveau A ou B, donc vraiment très bien isolé, si jamais vous cassez, c'est dans l'étude, 10% de Paris pour y mettre des parcs, et si jamais vous les irriguez, dans ce cas-là, vous passez de 15 heures à 13 heures de stress thermique. Donc, c'est des mesures très ambitieuses qui coûtent vraiment des centaines de milliards et qui ont un effet assez insuffisant. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et donc, dans la boîte à outils, il y a aussi la clim, et c'est le seul outil qui permet vraiment d'avoir ce stress thermique qui va vers zéro.
D'accord.
Et donc... la clim, elle est vraiment structurellement nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut la clim tout de suite partout. Ça ne veut pas dire...
Il faut cibler les endroits climatisés, alors, c'est ce que vous voulez dire.
En priorité, mais à terme, tout le monde aura la clim.
Parce comme que sinon, au Japon, ça ira au Japon, c'est 98% d'équipements ou 90% oui, d'équipements de climatisation.
Mais en fait, même probablement que
en
les 10%...
En Corée du Sud, c'est 86%, aux États-Unis, c'est...
Et probablement que les 10% restants, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se le payer. Et donc ça, il y a un problème de justice sociale.
Mais on
et
peut
faut
le
l'adresser.
Faire en France.
Bien sûr. Mais enfin sinon en fait l'alternative c'est 13 heures par jour de stress thermique. Et donc qui veut ça ? Personne. Voilà. Donc elle est nécessaire mais un, il faut l'installer de manière correcte. Et plus l'État prendra la mesure, fera des politiques publiques, mieux ce sera fait. Et deuxième chose, c'est pas parce que elle est insuffisante aussi. Donc il faut la clim, il faut
plein
d'autres.
Est-ce qu'elle réchauffe l'atmosphère ? Est-ce qu'elle crée des îlots de chaleur destructeurs, la clim, alors,
donc, l'îlot
avec ce qu'elle renvoie ?
L'îlot de chaleur, c'est... sans clim, il y a déjà de l'îlot de chaleur, d'accord. Parce que la ville garde de l'énergie et la restitue la nuit à cause du bitume, le béton, etc. Et effectivement, la clim rajoute un peu de l'îlot de chaleur, mais en vrai, c'est pas grand-chose. Un chiffre, je vous donne. Donc, de nouveau, dans cette même étude, les personnes en extérieur sans clim vivront 19h30 sous stress thermique. Par jour. Et si jamais on climatise tout Paris à 23 degrés, on passe de 19h30 à 19h37. Donc oui, il y a une aggravation. Mais par rapport aux bénéfices gigantesques en intérieur, en fait, alors là, c'est une histoire de valeur, mais moi, évidemment, je suis pour.
Pardon, mais je trouve que le débat prend des tournures assez étranges. C'est un mélange de Don't Look Up et de South Park. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre les effets du dérèglement climatique. Don't Look Up, c'est un film sur déni climatique. Et South Park est une série qui malheureusement prend un peu trop forme des réalités. Ouais. Non, on est en train d'avoir un débat sur la canicule, mais peut-être que le meilleur moyen d'éviter la canicule, c'est d'agir sur la question du dérèglement climatique.
Mais, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre.
En l'occurrence,
sur le dérèglement climatique, ça va prendre des dizaines d'années pour arriver à faire baisser la température. Et puis après,
Non, elle baissera pas. Là, c'est trop tard.
Oui, mais d'accord.
On a déjà dépassé les 1,5 degrés.
Il y a le quotidien des gens, monsieur le député. Oui. Il y a le quotidien des gens. Et le quotidien des gens,
je
c'est
sais. Mais, non,
de,
mais attendez,
de vivre de
on va prendre, on va prendre le sujet à la source. Ça nous arrive pas parce
d'accord.
que l'esprit du Saint-Esprit.
Mais là,
ça nous arrive parce qu'une bande de milliardaires et de chefs d'État ont fait le choix conscient pour continuer de s'en mettre plein les poches, de laisser ma génération gérer les problèmes qu'ils n'ont pas voulu gérer. Pour moi, le cœur du débat, il est là.
Oui.
Après, sur la gestion des effets du dérèglement climatique, bien sûr, il faut avoir de la climatisation dans les lieux sensibles. Mais c'est pas le seul moyen.
Chez soi, on peut l'avoir aussi.
Mais bien sûr, les gens ont le droit d'avoir la climatisation chez soi. Par contre, il y a un désavantage avec la climatisation, c'est qu'après, en fait, les gens, il faut qu'ils payent la facture. Et la vérité, c'est que tous les Français peuvent pas la payer. Par contre, vous avez une solution qui est une solution collective et qui met pas les Français en difficulté.
C'est un truc de riche pour vous. La climatisation, c'est un truc de riche.
Vous avez vu le prix de l'électricité aujourd'hui? Par contre, vous avez des solutions qui sont collectives, c'est-à-dire la rénovation thermique des bâtiments. Je vous donne rien que cet exemple-là. La moitié des logements du pays sont des bouilloires thermiques. Ça veut, donc, vous avez déjà une solution, c'est de faire de la planification écologique sur la question de la rénovation thermique des bâtiments. Pardon, mais sur la question climatique, il faut arrêter tout individualiser. C'est un problème qui est collectif.
Non, mais le problème, d'accord. Mais avant la collectivisation, il y a aussi quand on rentre chez soi, ce que l'on subit en étant à 30 degrés. Alors, on peut essayer de rénover le bâtiment, et puis après, il y a comment on atténue les 30 degrés ou les 35 degrés qu'on a chez soi. Et ça, il y a des ventilateurs et il y a des petits climatiseurs que l'on peut acheter aujourd'hui.
Effectivement, la climatisation, elle sera nécessaire et de plus en plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire d'autres choses intelligentes. Par exemple, évidemment, mettre des volets. Et il y a à peu près la moitié des bâtiments de France qui n'ont pas de volets et il faut le faire. Néanmoins, la clim, c'est un objet technique qui est parfois un peu nébuleux pour les Français, la clim est réversible. C'est-à-dire qu'elle peut faire deux choses. Elle peut faire du froid l'été et elle peut faire aussi du chaud l'hiver. Et donc, oui, la clim, elle coûte cher à l'achat, mais ne pas mettre la clim coûte encore plus cher parce que vous avez des personnes qui vont pas à l'école et donc les parents doivent les garder et donc ils ne travaillent pas pour la nation en création de richesse.
Et puis ils payent des nounous ou éventuellement, bien sûr.
Et donc l'inaction, mais comme d'habitude sur le changement climatique, l'inaction coûte encore plus cher. Donc ok, ça coûte cher, mais l'État aurait intérêt à aider, encadrer, voire subventionner. Je sais que les caisses sont pas très pleines en ce moment, mais l'inaction coûtant plus cher, il y a intérêt à agir. Et surtout, que vous pouvez tout à fait subventionner l'installation de clim réversible pour faire du froid l'été, du chaud l'hiver, à une condition qu'on arrête, qu'on mette à la poubelle la chaudière gaz ou la chaudière fuel qui sert de chauffage l'hiver. Et comme ça, vous résolvez deux choses en même temps, l'atténuation au réchauffement climatique en baissant les émissions du chauffage et l'adaptation en arrêtant de souffrir l'été.
La question des écoles, c'est vrai qu'elle est centrale aujourd'hui, Véronique, parce qu'on dit à bon nombre de parents, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Il fait trop chaud, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, parce qu'il est hors de question d'exposer ces gamins à plus de 30-35 degrés dans la classe. Mais il y a la question de la climatisation aussi des écoles.
Oui, parce que là, en ce moment, les enseignants souffrent énormément. Ils le racontent tous, 35 degrés, avec des enfants qui ont du mal à apprendre, qui ont du mal à travailler. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils font de l'occupationnel. Donc, actuellement, on a 8000 établissements scolaires qui ont été impactés, 1800 qui sont complètement fermés, mais la plupart continuent avec toujours le sens du devoir, il faut le souligner chez les enseignants. Ils continuent quand même à assurer la continuité pédagogique, à s'assurer que les enfants soient reçus, mais dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Ils n'ont pas le droit actuellement de faire des droits de retrait, il y en a beaucoup qui essayent d'en faire. Donc, ce qui ressort en ce moment de ce malaise, c'est ils font des fiches registres santé et sécurité au travail, entre guillemets, c'est des alertes. Vous avez des écoles entières qui font des alertes à leurs supérieurs pour dire on a des malaises, faites quelque chose. On le voit, les mairies choisissent de mobiliser des climatiseurs mobiles. Par exemple, la mairie de Paris a décidé d'équiper les écoles, 1200 climatiseurs mobiles. La question ce qui se pose, c'est pourquoi les certaines communes n'ont pas décidé de faire les choses avant aussi, parfois vraiment avoir autant d'écoles qui n'ont pas de volets, qui ne peuvent pas ouvrir la nuit.
Mais ça paraît aberrant.
Ils ne peuvent pas ouvrir la nuit.
Depuis 2003, en 23 ans, qu'on n'est pas. Alors, il faut rappeler ce que c'est, hein, Véronique, c'est-à-dire le bâti pour les écoles primaires.
Ça dépend des mairies, les collèges des départements et les lycées des régions. Et sans doute aussi, cette organisation pèse un peu parce que vous avez l'éducation nationale qui est l'employeur, qui doit assurer la sécurité de ses agents, mais qui n'a pas la main sur ce bâti scolaire. Donc il y a des choix quand même budgétaires. Vous avez des villes qui choisissent quand même d'investir, d'autres qui font pas grand-chose. Il y a quand même une vraie question là-dessus. Alors, les syndicats aujourd'hui publié un rapport qui a été voté par le Conseil supérieur de l'éducation et il demande vraiment à l'État là maintenant de mettre les pieds dans le plat, d'investir, d'aider les collectivités locales et puis surtout qu'il y ait un système aussi d'obligation, de diagnostic pour que les communes s'engagent et afin qu'on fasse tous un diagnostic en début d'année, dire voilà, on a ça qui ne va pas, on a un toit qui n'est pas isolé, on n'a pas de store, voilà, des choses au moins basiques.
Ça, c'est d'anticipation, mais c'est vrai que député Boyard, il y a plus de morts en France à cause de la chaleur que sur la route. Donc on dit, c'est là effectivement où il faut mettre le paquet, il faut mettre les volets, de la climatisation, de la ventilation, des aérations.
Et alors, il y a eu un effet...
Pour éviter qu'un jour, on se dise, il y a une question à l'Assemblée nationale sur pourquoi des enfants sont morts dans une école,
bien sûr,
parce qu'ils étaient déshydratés, parce qu'ils se sont sentis mal.
Je trouve les écoles, c'est un très bon exemple de pourquoi est-ce qu'il faut de la planification écologique. Déjà, premièrement, on dit c'est la responsabilité des communes. C'est vrai, c'est la responsabilité des communes. Or, il se trouve que les communes, avec l'inflation qu'elles ont aussi et les baisses de budget qui leur a été fait par le gouvernement Macron, la vérité, c'est qu'elles n'ont pas des millions d'euros pour pouvoir rénover l'école.
Alors, il y a aussi des choix. Il y a aussi des choix.
Il y a aussi des choix.
Je suis allée dans une école.
J'ai quelque chose à en dire. Oui, bien sûr, il y a aussi des choix. Mais si jamais, à chaque fois que face à le plus grand enjeu que l'humanité a eu à affronter, si à chaque fois qu'on doit régler un problème, on renvoie à la solution individuelle, on va pas s'en sortir. C'est pourquoi nous on parle de planification. Et là, vous avez un exemple. On ferme des écoles en disant ça va mettre les enfants en danger. D'accord, très bien. Vous avez des enfants, quand ils rentrent chez eux, il fait encore plus chaud qu'à l'école.
C'est vrai.
Et souvent, et en plus souvent, c'est les gamins les plus précaires. Pourquoi est-ce que dans un certain nombre de villes, on n'a pas des espaces frais qui sont organisés pour que les personnes chez qui il fait trop chaud ne puissent pas y aller? Je vous donne un exemple. Je vous ai donné l'exemple de ces enfants. Je vous donne un autre exemple, les sans-abri. Je vous donne un autre exemple, des personnes âgées qui sont au sixième étage. Ces espaces-là ne sont pas organisés parce que rien n'est préparé.
Oui, mais c'est assez paradoxal parce que du coup, au Japon, où il y a 90% de climatisation, les enfants, les écoles, tout reste ouvert. Et là, en fait, on dit aux enfants, vous ne pouvez pas aller à l'école parce qu'il fait trop chaud, vous retournez chez vous où il fera peut-être encore plus chaud. Donc c'est là où...
C'est pour ça qu'on parle de planification.
Oui, planification, mais qui ne doit pas exclure la climatisation.
Mais c'est ahurissant. Je viens de vous dire trois fois que c'était dans le programme,
dans les endroits,
que dans les écoles, dans les hôpitaux, les EHPAD. Mais si jamais vous pensez qu'en climatisant la France...
Et les domiciles, vous êtes contre ou pas dans les domiciles?
Mais les gens ont bien le droit d'avoir une clim dans leur domicile.
D'accord, ça, vous leur laissez la liberté d'acheter ou pas?
Mais attendez, heureusement, par contre, je suis en train de vous dire quelque chose, c'est que si jamais vous êtes dans une passoire thermique, derrière vous allez devoir faire tourner encore plus votre climatisation et ça va vous revenir plus cher. Le problème structurel, c'est la question de la rénovation thermique des bâtiments. Parce que ça,
c'est l'État qui paye.
Mais heureusement que c'est à l'État.
C'est l'État qui paye pour les immeubles, les copropriétés.
Mais attendez,
c'est l'État qui paye.
Ça va coûter
un pognon de dingue.
40 milliards d'euros, c'est la Cour des comptes.
Vous dites ça va coûter un pognon de dingue. Déjà, premièrement, si je sais où est-ce que je vais le trouver l'argent, je vais aller prendre les super profits Total qui est en train de s'en mettre plein les poches et de condamner ma génération.
Moi,
je
sais où ils en auront plus. Sous.
La vérité, c'est qu'en faisant ça, vous allez faire quoi? Vous allez avoir des milliers de gens qui vont bosser. Ces gens qui bossent, ils cotisent, ils payent des impôts. Ouais. Et toutes les réductions que vous allez faire parce que les gens, ils n'ont pas à payer la clim ou à payer l'augmentation de la facture de chauffage parce qu'ils sont dans une passoire thermique, et cet argent, ils vont le mettre dans d'autres lieux de consommation. Et donc, du coup, ça va vous faire rentrer à nouveau de l'argent dans les caisses. Ça, c'est le programme de la France Insoumise, la planification écologique et la relance de la consommation.
Mon exemple, c'est que j'étais devant une école du 12e arrondissement vendredi dernier. Il faisait extrêmement chaud. Il n'y avait pas de store. Le toit de l'école n'est pas isolé et c'était vraiment le système D avec les couvertures de survie qui ont été placées sur les vitres. Et les parents d'élèves, ça fait 2 ans qu'ils alertent sur la situation de cette école et la chaleur. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué qu'il y a le budget participatif qui est voté par tous les Parisiens, qui permet aussi d'ailleurs d'équiper les écoles ou pas, qui a permis de financer un ciel de rue décoratif dans la rue à 30 mètres, qui valait 90 000 euros. Ouais. Elle me dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec 90 000 euros pour nos écoles?
C'est parce que c'est pas la France Insoumise qui gère la mairie.
Une question simple aussi. En Australie, lorsqu'ils connaissent effectivement 2 saisons très chaudes et humides, lors de la saison chaude, ils ont aménagé les caves de certains bâtiments. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas finalement aménager les caves? Les caves d'énormément d'immeubles sont des endroits qui sont vétustes et qui ne sont plus utilisés. Et pourtant, il fait 10-15 degrés de moins que dans les étages. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réaménager ces caves?
Et beaucoup d'établissements scolaires ont d'énormes sous-sols.
Arthur Delassus, avant d'aller à Vannes, un dernier mot.
Oui, donc la clim, elle est vraiment nécessaire et elle est insuffisante dans le sens où... pour lutter contre la mortalité suite aux vagues de chaleur, il faut tout un ensemble. Il n'y a aucune technologie magique, même si elle est incroyable d'un point de vue technique, c'est très efficace. Il faut toujours un entrelac de politique publique, d'équations économiques. Et malheureusement, le moins l'État prendra les choses à bras-le-corps, le plus ce sera des clims mobiles pas très efficaces, un peu pirates, qui aggraveront un peu le problème. Donc il faut... beaucoup plus que juste l'objet technique clim, même s'il est nécessaire.
Merci à tous. Alors, vous savez où il fait 36 degrés, là, dans une région peut-être où l'on n'attendait pas ces 36, à votre avis?
Bretagne.
Où on se disait, je peux trouver de la fraîcheur.
Bretagne.
Normandie.
La Bretagne. C'est à Vannes que l'on va retrouver Adélaïde Malinvaux en direct pour BFM TV. La Bretagne qui souffre aussi de la chaleur et de la canicule.
Et oui, jusqu'à 37 degrés cet après-midi ici à Vannes. Pour vous donner un ordre d'idée, il est 18h, il fait toujours 36 degrés. Regardez justement la conséquence de tout ça, de ces chaleurs records, c'est que de nombreux habitants ont décidé de venir se rafraîchir là où ils pouvaient. On va retrouver Solène tout de suite. Solène, dans cette la crèche de votre fils, on vous a recommandé de ne pas laisser votre enfant cet après-midi pour qu'il n'ait pas trop chaud. Vous avez décidé de venir ici. C'est quand même du jamais vu ce qui se passe.
C'est ça, on n'a jamais vu ça, parce qu'avant on habitait à Paris et on suffoquait un peu l'été, il faisait 37 degrés. Et on s'était dit, on viendra en Bretagne vivre, et finalement on a la même chose qui arrive, comme quoi on n'est pas épargné, ou qu'on aille en France, peut-être même dans le sud, maintenant ça va mieux, mais en Bretagne...
Est-ce que ça vous inquiète cette situation?
C'est vrai que pour les enfants c'est quand même très inquiétant, surtout ceux qui sont en bas âge ou les personnes âgées, parce que c'est dur à supporter, et quand ça dure un ou deux jours ça va, mais quand ça dure une semaine, c'est vrai que ça peut être compliqué.
Bon, la conséquence de cette surfréquentation, c'est que la mairie a décidé d'étendre la surveillance de ces plages, d'ordinaire réservées au mois de juillet et d'août. La mairie qui a aussi décidé de laisser ouverts les espaces verts cette nuit pour permettre aux habitants de Vannes de venir se rafraîchir s'ils le souhaitaient, même en pleine nuit.
Adélaïde Malavou avec Aristide Sana à Vannes. Et puis on va aller à Bordeaux aussi, où il fait 42 degrés. Bordeaux, où on a mis en place un numéro vert pour la population. Et à Bordeaux, nous retrouvons Thomas Girard pour BFM TV.
Tout à fait, je me trouve dans le centre de supervision de la ville de Bordeaux et c'est ici que la municipalité a mis en place un numéro vert qui est accessible 24 heures sur 24 et surtout 7 jours sur 7. Ça permet aux personnes vulnérables, les Bordelais, les Bordelaises, d'appeler ce numéro et surtout d'avoir notamment des conseils pour trouver des coins de fraîcheur. C'est un numéro à destination notamment des personnes les plus vulnérables. Je me trouve avec David. David, vous êtes opérateur au sein de la police municipale.
Oui.
Comment ça fonctionne ce dispositif?
Tout d'abord, bienvenue au centre de supervision de Bordeaux, de la police municipale. Comment ça fonctionne? C'est tout simple. Un numéro est à disposition. Vous nous appelez, on est 4-5 opérateurs et nous répondons à vos demandes pour chercher des endroits de fraîcheur.
Donc c'est un numéro qui a été activé cet après-midi pour faire face à ces 42 degrés, c'est ça?
Tout à fait, 42 degrés aujourd'hui. Alors nous sommes ouverts 24 heures sur 24, c'est pour ça qu'on est sollicité. Et le but c'est vraiment d'aider nos concitoyens, aux personnes sensibles également, les sans-abri, les personnes âgées, à aider à passer ce petit cap, en espérant que ça ne soit pas trop long.
Alors s'il y a des Bordelais qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce numéro vert?
Alors ce numéro vert c'est le 0800 06 66 66.
Merci beaucoup David, on vous laisse retourner à votre Merci poste, à on vous souhaite beaucoup de courage. Et donc un numéro vert qui est accessible et qui reste en vigueur tout au long de cette vigilance rouge. Et la ville qui appelle les Bordelais et Bordelaises à communiquer ce numéro aux personnes les plus vulnérables.
Thomas Girard à Bordeaux pour BFM TV.